Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le jeudi 19 octobre 1987. Non, 2023, pardon. L'introduction de cette chronique est clairement la plus facile de ces 12 derniers mois. On ne peut pas commencer à parler bourse, finance et investissement sans commencer par se souvenir qu'en octobre 87, le 19 octobre 87, le Dow Jones s'est effondré de plus de 500 points en une journée, soit près de 23%. Pour nous offrir un des plus gros crash boursiers de l'histoire. Oui, après, il y a eu l'an 2000 et les subprimes. Allez savoir pourquoi. La violence du mouvement intraday a fait que nous ne nous en sommes jamais vraiment remis. Et chaque 19 octobre de chaque année, on se dit « Et si ça recommençait cette année à la même date ?» Mais en fait, non. Alors pour fêter cet anniversaire, ce matin, je me suis tapé à peu près tous les médias financiers américains pour voir si, 36 ans plus tard, on avait vraiment des raisons de croire que ça pourrait se reproduire. Je vais pas vous mentir, il y a à peu près 2843 analystes techniques qui ont réussi à superposer le graphique du S&P 500 de 2023 au S&P 500 de 1987 et qui, à chaque fois, arrivent à faire correspondre les cycles pour nous convaincre que nous sommes exactement dans le même mois d'octobre dans lequel nous étions en 87 et que forcément, on va se la prendre en pleine gueule pas plus tard que ce soir. Déjà, il faut bien comprendre qu'en 87, les ordinateurs ont commencé à paniquer et qu'ils ont tout vendu tout seul. Alors, je vais pas vous dire que ça n'arrivera pas en 2023. On a largement assez informatisé nos salles de trading pour qu'un jour, l'intelligence artificielle nous pète à la tronche et fasse plonger le marché de 8000 points sur le Dow Jones. Oui, parce que 500 points et les 23% de l'époque, si on les ramène à aujourd'hui, c'est plus de 7700 points de baisse sur le Dow Jones. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ça ne serait quand même pas simple parce que nous avons inventé les circuits breakers. Et que le jour où ça baisse vraiment, les autorités se sont donné le droit de fermer le marché pendant 24 heures pour calmer les esprits. Bref, ça ne peut pas se produire sous la forme de ce que l'on a vécu en 87, mais chaque année, à cette époque, on se refait le même film et on se ressort les mêmes graphiques et on est même prêt à raconter n'importe quoi pour faire croire que la magie de la date pourrait nous faire revivre la même chose 36 ans plus tard. C'est du pipeau et ça ne se produira pas. D'ailleurs, je vous ai fait tout spécialement deux vidéos que vous pourrez trouver en cliquant sur ce lien pour la première partie et sur ce lien pour la seconde partie. Alors oui, ça donne moins bien en audio pour ceux qui écoutent la chronique, mais si vous allez sur la chronique écrite, vous aurez les liens. Et puis, vous aurez donc sur ces deux vidéos le résumé du crash de 87 en deux fois une minute. Au passage, n'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager et à vous abonner à la chaîne Decode TV pour ne rien rater de ce qu'on vous prépare ces prochaines semaines. En ce qui concerne la séance d'hier, il faut tout de même retenir, et avant toute chose, que le CPI européen a été publié hier et qu'il était parfaitement en ligne avec les attentes. Que ce soit en annuel, en mensuel, ou qu'il soit corrigé ou pas, qu'il tienne compte du prix du pétrole, du logement, ou du prix des Birkenstock, ou du Beaujolais nouveau, tous les chiffres ont été publiés exactement comme les experts les attendaient. C'est assez miraculeux pour le signaler, ça fait près de 36 ans que je suis là, que je suis des marchés, et une exactitude comme celle d'hier frise le miracle. À la limite, je me demande si les gars n'avaient pas été informés avant. Non, parce que pour mettre une fléchette dans le mille à 25 mètres de la cible, de dos avec les yeux bandés, il faut avoir été informé. Bref, le CPI était en ligne, le plan de Lagarde se déroule sans accroc, et les pays de l'Union européenne sont trop forts. Et c'est sûrement grâce à Macron, qui est quand même un génie politique, pratiquement aussi doué qu'Einstein l'était en physique. Non, non, je déconne, hein. Ce type est le président le plus pathétique que la France ait connu. Je pensais que Hollande était nul, mais il dépasse clairement les attentes et de loin. Mais je m'égare, mais il m'énerve, c'est comme ça, c'est pour ça que je m'égare quand même, mais il m'énerve. Bref, le CPI était en ligne et du coup on s'est concentré sur ce qui se passe au Moyen-Orient tout en se repassant les chiffres des ventes de détail de la séance de mardi. Et d'ailleurs on s'est beaucoup repassé la séance de mardi tellement on ne savait pas comment manœuvrer hier. Du coup on s'est rendu compte que le fait que le consommateur consommait sans trop se poser de questions, même s'il n'a plus une thune sur le compte épargne, n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la Fed qui pourrait... Je dis bien « pourrait être amené à repenser un poil sa stratégie de taux d'intérêt pour passer d'une stratégie taux élevé pendant longtemps à une stratégie taux très élevé pendant très très longtemps ». Même si l'on sait que cette réflexion sera remise en question dans les 72 prochaines heures ou à la publication du prochain chiffre qui nous dira le contraire, ça n'a pas aidé les marchés qui ont dû en plus s'improviser stratège en conflit israélo-palestinien. Et comme comprendre un conflit qui date plus ou moins de l'époque où le soi-disant fils de Dieu a été crucifié sur la croix pendant qu'il multipliait les pains et qu'il faisait remarcher les paralytiques, ça n'est pas simple de rattraper le retard pour un trader qui a généralement des positions pour les 23 prochaines minutes. Pour faire simple, les craintes d'une inflation qui ne veut pas vraiment baisser et d'un consommateur qui ne veut pas vraiment arrêter de consommer des trucs chers en les payant encore plus cher, mélangées aux déclarations des Iraniens qui continuent de jeter de l'huile sur le feu et des Israéliens qui mettent du feu sous le bidon d'huile en question, n'a pas aidé les marchés à trouver la paix et la sérénité que le Fils de Dieu en question avait sur la croix en se rendant compte que Judas l'avait balancé aux flics. Le rendement du 10 ans a donc pris l'ascenseur en direction des 5%. Encore une fois, actuellement, la dette AA du gouvernement fantôme américain vous rémunère du 4,96%. Et hier, j'ai même vu des investisseurs avec la tête entre les genoux pour se préparer à l'impact des 5% sur le 10 ans. Non, parce qu'attendez, on sait tous que ça va nickel à 4,99, mais qu'à 5, la fin du monde se rapproche et les Ford Interceptor seront très recherchés pour parcourir l'arrière-pays vaudois et les contreforts légèrement montagneux du Valais à la recherche d'essence. À Genève, on s'en fout, ça fait longtemps qu'on peut plus rouler et qu'on roule en Tesla. Ou qu'on roule en Tesla, donc. Donc le rendement du 10 ans prend encore une fois l'ascenseur. Le pétrole monte un chouïa encore et les tensions dans la banlieue de Tel Aviv ne se calment pas parce que personne ne veut reconnaître la responsabilité de la destruction d'un hôpital. Ça et deux, trois autres désaccords qui datent de 2000 ans en arrière et souvent liés à la description de leur meilleur copain imaginaire. Et le marché est étendu donc comme un string en attendant les chiffres de Tesla et de Netflix. D'ailleurs, heureusement qu'on avait ça hier pour nous rappeler qu'il y avait une vie en dehors du conflit israélo-palestinien. Le cours du pétrole et du rendement du 10 ans américain, sont encore partis à la hausse. Après la clôture fortement baissière, que ce soit en Europe ou aux USA, Netflix a publié des chiffres qui étaient presque aussi bons que ceux de Nvidia le printemps dernier. Non, je déconne. Mais l'empereur du streaming et l'inventeur involontaire du binge-watching a annoncé que le nombre de nouveaux abonnés avait crevé le plafond et pulvérisé les attentes des analystes. Ouais, bah forcément, les gars ont été juste sur le CPI, on peut pas faire tout juste la même journée non plus, hein. Donc on attendait 5,5 millions de nouveaux abonnés sur le trimestre. La société a annoncé qu'ils étaient 8,76 millions, ça fait un sacré ratage, et ça fait un paquet de monde qui a passé son été devant la télé au lieu de sortir dans le jardin. Le bénéfice était de 3,73 $ par action, soit nettement au-dessus des attentes, et les revenus étaient en ligne. Netflix a également annoncé que leur nouveau programme low cost, qui vous coupe votre film toutes les 8 secondes pour vous dire que la barre of Maltine, c'est la dynamique, fonctionne de folie et visiblement il y a une chier de monde qui est prêt à économiser 5 $ par mois pour se taper des heures de pub et pouvoir acheter un iPhone à 1 500 $ dans 3 ans avec les économies. Netflix explosait de 12% after close. Perso, je short à ces niveaux. En plus de Netflix, on a eu droit à la traditionnelle fabuleuse séance de publication de Tesla. Grosso modo, le titre s'est fait démonter de près de 5% durant la séance et il a remis ça après la séance, re-5%, et les chiffres étaient en dessous des attentes, mais ça, on s'y attendait. Musk a dit qu'un nouveau modèle, c'était pas pour tout de suite. Quelqu'un a voulu poser la question au sujet des voitures autonomes et des robots taxis, mais un garde de sécurité qui a été défenseur de NFL et qui pesait dans les 200 kilos a immédiatement fait taire l'effronté, et puis on nous a donné la date de livraison du Cybertruck qui a été dessiné par un des enfants de Musk. Ça sera donc le 30 novembre, bien que la chaîne de montage ne soit pas une partie de plaisir à mettre en œuvre. En résumé, et pour faire simple, on avait assez envie de filer du Prozac en intraveineuse au management de Tesla, et on a connu des séances de publication un peu plus dynamiques, si je dois faire référence à la barre of Maltine précitée. Tesla a donc reperdu 5% after close et le total de la séance d'hier se porte donc à près de 10% de baisse. Des analystes sont déjà précipités pour dire que les révisions de recommandations d'investissement allaient rapidement être revues à la baisse. Ces prochains jours, le titre va ensuite encore se faire démonter et puis deviendra le titre le plus shorté du marché. Les shorts viendront à la télé pour faire la danse de la victoire et Musk nous sortira un nouveau truc de génie à sa manière. Et les mecs se feront casser les pattes arrière en direct sur CNBC. La plupart des marchés asiatiques sont en baisse ce matin. Tout ce qui est lié de près ou de loin à la techno se fait éclater, tout particulièrement à cause, soi-disant, de la hausse des rendements. En plus, ce soir, il y a Powell qui va parler et tout le monde flippe. Tout simplement. Les craintes d'une escalade de la guerre entre Israël et le Hamas pèsent également sur le sentiment matinal. Mais ça, c'est le truc qu'on utilise dorénavant quand on sait plus quoi dire. Ah oui, en fait, il y a toujours la guerre en Ukraine, mais tout le monde s'en fout. Le Nikkei est en baisse de près de 2%, tout comme Hong Kong. La Chine limite la casse avec un recul de 1,2%.
Inutile de vous dire que dans cette ambiance, le pétrole continue de monter gentiment. Il est actuellement à près de 87$. L'or est à 1957 et le bitcoin est à 28 260. Du côté des nouvelles du jour, mis à part les analyses au spectrographe sur Tesla, on notera que Biden nous a encore fait une vidéo alors qu'il était à bord d'Air Force One, et à l'heure actuelle, les experts ne savent toujours pas en quelle langue il a parlé. Mais si on avait un doute sur le fait que le mec est complètement sénile, le doute est levé, et on peut même se demander comment son équipe de com fait pour le laisser parler à la presse dans cet état. Pfizer a annoncé qu'il baissait les prix de leur traitement anti-Covid à 1 390 $ pour 5 jours seulement. Là, tout de suite, je suis en train de penser à un truc triste pour ne pas rire. Non, parce qu'on sent bien que les pharmas spécialisés en Covid sont désespérés. Ils ont encore des montagnes de stocks de médocs, ils savent même plus quoi en faire. Et on attend la vente privée spéciale Covid avec des rabais 80% sur les vaccins. Pour aujourd'hui, on reprend les mêmes thèmes qu'hier, sans Tesla et Netflix, et en rajoutant un discours de Powell. Les chiffres de Roche, Nestlé, L'Oréal, AT&T, Nokia, Taiwan Semiconductor. Et ce soir, après la clôture, il y aura WD40. Ce sera moins drôle que Tesla, mais ça va dégripper. Pour le moment, les futurs sont en baisse de 0,15%. La volatilité est à 19% et l'indice Green Fear est toujours sur peur, mais pas sur extrême peur, ce qui est rassurant, ou pas. En ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas d'aller voir mes deux vidéos sur le crash de 87 pour fêter ça. La chaîne Decode TV passe les 1000 followers aujourd'hui. Si on est à 2000 à la fin du mois, je me fais une crête bleue et orange pour fêter ça. À demain et bon courage à tous pour retrouver un parapluie pour sortir ce matin.